Vous écoutez
RMC.
Je pense qu'aujourd'hui, on va pas se permettre de tuer l'ours avant de faire le championnat.
Je pense qu'on va pas brûler la peau de l'ours hein, avant de l'avoir vendu.
C'est une position que j'aime bien aussi, donc voilà. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Nicolas Jamain.
Coach Courbis, Willy Sagnol et Lionel Charbonnier. C'est le casting de l'after ce soir, jusqu'à minuit, bien sûr, sur RMC. Il est 23h01. On a encore une heure, je pense qu'on va se régaler, il était intéressant. On finira par les joueurs les plus originaux, les plus fous de l'histoire du foot. Hein. Coach Willy et Lionel nous donneront sûrement leur coéquipier ou celui qu'ils ont croisé dans leur carrière qui les a le plus impressionnés ou étonnés, surtout, c'est plus le mot. Tout à l'heure, on fera également un débat sur quel est, selon vous, le meilleur joueur de Ligue 1 entre 2000 et 2009, la décennie 2000 pour notre championnat de France. Mais d'abord, les actus du jour, messieurs, tiens rapidement cette déclat signée de Raphaël, décidément le latéral international brésilien de l'Olympique Lyonnais, qui a la langue bien pendue, qui dans une interview à ESPN, t'a passé fort sur son compatriote Neymar, avec lequel il a joué les Jeux Olympiques à Londres en 2012, et en sélection A également. Il dit, je pense que Neymar n'est pas un leader, grosso modo, il peut faire des belles choses sur le terrain s'il est concentré. Mais malheureusement, aujourd'hui, je pense que le football n'est pas sa priorité. Il y a tellement de choses autour de lui. Il croit qu'il n'a pas besoin de faire ça ou ça pour être bon. Mais si il en a besoin, je le connais, je joue avec lui. Je sais qu'il a du mal à écouter. J'ai essayé de lui parler, lui dire la vérité. Mais parfois, les gens ne veulent pas entendre la vérité. Voilà. Bon, vous retenez quelque chose dans cette déclaration, hein, messieurs ?
Ouais, bon, une évidence.
Donc, oui. Bah après, Raphaël,
Neymar ne soit pas l'exemple d'un sportif sérieux 24 heures sur 24, hein, c'est sûr que, heureusement qu'il y a Raphaël.
Bon, ça veut dire que qu'est-ce qu'on peut attendre de Neymar? Je vous pose la question. Rien de plus que ce qu'il fait. C'est déjà très bien.
On peut faire une prière pour qu'il ne se blesse plus. Oui. Et qu'il ne rechute plus et qu'il puisse terminer une saison du début jusqu'à la fin avec une régularité qui permet à son club d'atteindre les objectifs, chose qui n'a pas été le cas encore.
Voilà, messieurs. Neymar, Willy, Lionel, c'est bon? On avance?
Ouais, on peut avancer. Ouais,
allez, on avance. Info Sky Sport, confirmé par RMC Sport. Chelsea a prolongé le contrat d'Olivier Giroud. Les Blues ont en fait levé l'option d'une année supplémentaire qui figurait dans son contrat. Giroud est donc lié désormais à Chelsea, avec Chelsea jusqu'en 2021. Ce qui semble, messieurs, je peux me permettre, assez logique quand on est Chelsea, en tout cas, plutôt que de laisser partir libre dans cette période-là et dans les prochains mois. Je rappelle que Giroud, hein, sur nos infos également, intéresse l'Inter et la Lazio. Normal que Chelsea prolonge Giroud?
Oui,
ce qui ne veut pas dire qu'il ne marchera pas d'ailleurs, crois-moi, messieurs. Hein.
C'est, ouais, voilà, exactement. C'est pas parce qu'ils l'ont prolongé qu'il va rester à Chelsea. Moi, je le vois même partir, franchement.
Prolongé d'un an, donc tu as dit?
Je ne sais pas, parce qu'après, même en janvier, la porte était ouverte et ça ne s'est pas fait avec les clubs.
À l'Inter. Ça coûte rien, l'option,
ça coûte rien. Et puis bon, ils savent pas non plus de quoi l'avenir sera fait. Donc, je pense que c'est plutôt une décision logique. L'Inter, non, parce que t'as Lukaku et Martinez, donc c'est un duo qui marche bien. S'il avait été là-bas, il était remplaçant. À la Lazio, je pense que c'est pas le.
Il y a un truc qui s'est passé quand même, c'est que sur les 6 derniers mois, alors que là, on le voyait même, c'était plus que sévère, c'était anormal, ne même pas rentrer les 5 ou 10 dernières minutes d'un match. Alors que là,
commencer à rejouer.
J'ai l'impression qu'il y a eu un énorme changement de vision du coach.
Ouais, et puis surtout parce que t'as Batshuayi qui est trop irrégulier, t'as le petit.
Il en avait besoin.
T'as le petit Abraham qui a fait un super début de saison, qui après a marqué un peu moins et puis qui s'est blessé. Donc puis il y a une chose qu'il faut prendre en compte aussi. Giroud, c'est un joueur qui a 34 ans. Ça fait maintenant, je crois, 6 ans qu'il est en Angleterre. C'est peut-être un joueur qui adore Londres et qui veut rester à Londres et que pour lui partir de Londres pour repartir ailleurs dans un autre pays
sur le plan familial.
Voilà, et que peut-être sur le plan familial, comme on dit, il a peut-être pas envie de refaire un déménagement.
8 ans qu'il est là,
réapprendre une autre culture ou une autre langue et il se dit non, je préfère finir à Londres, je suis bien ici. Donc non, je trouve ça logique, ouais.
D'autant plus qu'il a bien fini. Exactement. Là, ce qu'il a fait, sa deuxième moitié, là,
c'est pas mal.
C'était mieux. Bon, ça a duré 2 mois et demi, mais c'était encourageant, en tout cas, pour rester à Chelsea. Voilà pour le cas Giroud. Oussem Aouar, messieurs. On le savait, déjà des offres l'été dernier, notamment de City. Mais bon, Lyon a décidé de le garder un an de plus. La porte semble ouverte pour lui dès l'été prochain. Alors attention, cortège de gros clubs qui veulent le faire venir dès la fin de saison. En tête encore Manchester City, où Pep Guardiola n'a jamais caché son coup prononcé pour Aouar, depuis notamment le match aller-retour en 8e, en Ligue des Champions il y a un an et demi. La Juve également est entrée dans le jeu. Le Lyonnais il fait l'unanimité selon nos infos, et le PSG également selon nos infos. Précision, Lyon pas contre céder son milieu de terrain, mais pas à moins de 50 millions d'euros.
Moi, je pensais plus.
Bah, moi aussi, je suis un peu surpris. 50 millions d'euros.
On connaît la durée de son contrat.
Très bonne remarque. T'as raison. C'est une très bonne question que tu me poses. Je vais me renseigner.
Je crois qu'il lui reste un an.
Je crois. 4 millions, c'est énorme.
Je crois.
Bon, en tout cas, les gars, quelle destination pour lui, selon vous, serait la plus pertinente pour le profil d'un joueur comme Oussem Aouar?
Moi, je dirais, alors, c'est un joueur qui a un énorme potentiel parce qu'il l'a montré. Après, il ne l'a pas montré de manière régulière. C'est quand même un joueur qui est assez irrégulier. Et pour moi, le profil Aouar, il a encore beaucoup à apprendre tactiquement. Dans le travail d'équipe, dans la tactique, dans l'animation avec ses partenaires. Et pour moi,
t'entends nous dire qu'il aille en Turquie.
Non, pour moi ça serait parfait qu'il y aille à la Juve, parce que la Juve, c'est je veux dire, c'est la rigueur italienne. Moi, je pense que Pogba, tu vois, le fait qu'il parte de Manchester en fin de contrat, qu'il y aille à la Juve, ça a été sa meilleure décision qu'il ait prise dans sa carrière. Parce que la Juve, c'est un club qui va façonner le joueur. T'as pas beaucoup de joueurs qui vont à la Juve et qui sont moins bons en repartant que quand ils sont arrivés. Hein. La plupart du temps, ils sont meilleurs en repartant. Et je suis, pour moi, dans son évolution, dans son développement personnel, je le verrais beaucoup plus aller à la Juve qu'à Manchester City. Ou si jamais Guardiola le prend et que ça se passe pas bien au départ, Guardiola, il en mettra un autre après. Il a 325 000 joueurs dans son effectif, Guardiola. Donc moi, c'est pour ça que je le verrais bien à la Juve. Je pense que ça collerait bien.
Ouais, écoute, c'est vrai que ça serait une bonne idée avec ce club qui est énorme. Et ben moi, pour lui, je choisis pas au niveau du club, je choisis au niveau du coach, et je vais avec Guardiola.
Pourquoi coach?
Ouais, parce que je pense que avec ces bons joueurs, je m'imagine par exemple un Aouar avec sa vision du foot, il pue le foot, avec un De Bruyne.
Ah oui.
C'est ça que j'aimerais voir. C'est vrai que, comme dit Willy, après, si ça se passe pas bien, il en mettra un autre. Mais bon, quand tu t'appelles Aouar et que tu es transféré à Manchester City, on en met un autre, il va pas être au chômage.
Ouais, mais après, il y a un autre élément.
Ceci dit, Willy, en plus, c'est quand même Guardiola qui fait le forcing pour l'avoir. Donc, il aura plus de tu comprends ce que je veux dire?
C'est juste dans des questions de profil à voir. Bon, il a fait des matchs où il a été très bon, mais il y a une chose qu'il a montré depuis 2 ans, 3 ans, c'est que à l'intérieur des matchs, il a du mal à être sur des phases de transition. C'est-à-dire qu'il a, alors je sais pas si c'est une question de coffre, si c'est une question de volonté. J'espère que c'est une question de volonté.
En tout cas, c'est pas régulier. Il est capable de le faire, mais c'est pas régulier.
Ça voudrait dire qu'il est capable de le faire. Et moi, j'aimerais qu'il soit capable.
On l'a vu le faire.
En Angleterre, vous avez vu le travail des milieux offensifs avec Guardiola.
Bien sûr.
Mais c'est tué à 110% pendant 90 minutes. Et moi, je suis. Par rapport à ce qu'il nous a montré, je sais pas s'il peut le faire.
Sur son volume de jeu, en fait.
C'est vrai
ce que tu dis.
C'est mon interrogation.
Mais c'est vrai ce que tu dis. Mais justement, pour passer ce cap, ça serait aussi courageux de sa part. Mais le contrat serait magnifique aussi, sportivement et financièrement. C'est vrai que d'aller voir un petit peu et de faire des efforts supérieurs et différents de ce qu'on a vu faire à Lyon, et de gagner aussi en régularité, et pas seulement d'être bon une partie du match, d'être bon un peu plus longtemps et tout, est-ce qu'il est capable de ça? On le verra, mais s'il est capable de ça, attention que footballistiquement,
il a du ballon, bien sûr. Après, c'est vraiment cette question, parce qu'il faut savoir qu'il y a des joueurs physiologiquement, physiquement, athlétiquement, ils ne sont pas capables. Ils n'ont pas la caisse. Regarde un Ndombele. Il n'a pas la caisse, Ndombele. Mais c'est pas un problème. C'est pas un problème de volonté. Mourinho, souvent, il parle de volonté. Mais il n'a pas la caisse pour faire cette transition tout le match. Il ne l'a pas.
Ouais, mais il faut la caisse aussi pour la Juve.
Il y a des fois des. Il y a des fois des
intérêt d'avoir la caisse aussi en Italie.
C'est un jeu plus posé. C'est un jeu plus posé, l'Italie.
Tu es moins sur la transition. Moi, je ne le vois pas en Italie.
Tu es moins sur la transition. Je sais pas. Après,
personnellement, je
qu'il y a en Angleterre ou en Italie, s'il y va, ce qu'on lui souhaite, c'est d'y réussir.
Ou le PSG, messieurs, puisque le PSG semble intéresser également. Son contrat s'arrête en 2023, coach. Hein, donc, tu vois, voilà, il y avait de la marge.
Ah oui, oui. Deux ans, il lui reste.
Il lui reste deux ans et demi.
Deux ans.
Ouais, attends, 2021, 2020. 2020, 2021, 2021, 2022, 2023, 3 ans, t'as raison.
Ah oui, 3
plus
ans.
3 saisons encore, exactement.
Et à 50 millions, 3 saisons ?
Ouais, exactement. Mais c'est-à-dire que si Lyon ne joue pas la Ligue des Champions la saison prochaine, tu vois, ce qui semble bien parti, malheureusement pour les Lyonnais, voilà quoi. C'est,
Et puis je pense que je trouve voilà, que le montant, ça résume aussi la carrière de.
Le talent et les limites
Doucem,
du joueur.
Doucem à Lyon, il nous laisse entrevoir un potentiel extraordinaire. Mais qui ne l'utilise pas tout le temps.
Les années passent.
Si le match, c'est
quel âge exactement?
Il doit avoir 22 ans.
Il est né en 98.
Ouais, il a 22 ans, il est tout jeune encore. Mais tu vois, par exemple, sa première mi-temps contre la Juve. La deuxième mi-temps, c'était déjà plus la même. Il a été deuxième mi-temps,
de toute son équipe.
Oui, non, mais je sais. C'était plus la même. Il a été plus dans un rôle de travailleur qu'il a très bien fait d'ailleurs. Mais imagine s'il était capable de répéter en Champions League la première mi-temps qu'il a faite contre la Juve, de le faire sur 90 minutes et de manière régulière. Là, il vaudrait 100 millions. Mais comme il ne l'a pas encore montré, et j'espère qu'un jour il y arrivera, qu'on pense que c'est que 50, entre guillemets.
Et Lyon, s'ils font les demi-temps aussi comme ça, Lyon, sera difficile de ne pas les voir dans les trois premiers.
Voilà pour Oussem Aouar, messieurs. Tiens, alors beaucoup moins réjouissant, bien sûr. C'est le cas Junior Sambia, 23 ans, milieu terrain de Montpellier, hospitalisé depuis mardi soir, placé en réanimation et donc en coma artificiel. Alors les tests ont révélé aujourd'hui qu'il souffrait bien du Covid-19. Son club Montpellier, qui est à son chevet, n'a pas communiqué depuis hier soir. C'est vrai que quand on entend ça, on s'interroge évidemment sur une reprise de la Ligue 1, ce qui semble vraiment pas prioritaire, bien sûr, et l'émotion pour Montpellier, pour voilà.
Il y a une précision,
même si ça va mieux pour Junior Sambia à terme. Dis-moi.
Il y a une précision quand même dans ce cas-là, c'est que il a eu les tests et les tests étaient négatifs.
Dans un premier temps négatif, mais ça arrive souvent effectivement.
Ben ouais, mais
que les tests sont négatifs.
Justement, je te rejoins. Oui,
comment reprendre la Ligue 1 si les tests sont négatifs et positifs le lendemain d'un match?
Et quand tu vois ce qui se passe en Chine, pareil.
Oui, au Japon, on ouvre les écoles, on les referme une semaine après.
Voilà. Et là, en Chine, ça repart de l'autre côté du pays. Franchement, c'est une vraie merde.
Noël Le Graët a proposé aujourd'hui, au bureau de la LFP, que le football reprenne en France avec les deux finales de Coupe Nationale. Proposition faite ce vendredi. Alors, son plan, c'est simple, de jouer la finale de la Coupe de France PSG Saint-Etienne le samedi 13 ou 20 juin. Ça donnerait une bonne image du football amateur et professionnel, dit-il. Et on jouerait la finale de la Coupe de la Ligue 3 jours plus tard. Donc ça va être dur pour le PSG. PSG-OL, comme ça, il précise, Noël Le Graët, les deux coupes auraient lieu à huis clos avant le début du championnat. Bon, il dit, personne ne m'a dit non, donc quand on me dit non, quand on ne me dit pas non,
qui ne dit non consent.
Oui. Voilà, exactement.
Voilà pour moi, je préférerais l'inverse.
Quoi ? Si personne dit oui, je pense.
Non, mais je préférerais l'inverse, qui commence par la finale de la Coupe de la Ligue.
Mais tu m'étonnes, évidemment, William.
Peut-être s'ils sont un peu fatigués, peut-être que Saint-Etienne y arrivera.
Je préférerais même que Paris joue deux matchs. D'abord la finale de Coupe de France.
Mais tu sais quoi ?
Le dimanche,
non. Même pas.
Je crois que Lyon préfère que ce soit comme ça.
Tu joues le samedi à 18h la finale de la Coupe de la Ligue et à 20h la finale de la Coupe de France.
C'est du huis clos, donc t'as pas à faire sortir les spectateurs. Voilà, c'est nickel.
Exactement, c'est parfait.
Déclaration de Jean-Michel Aulas également ce soir sur OLTV, qui commence à envisager, ça y est, à caresser l'idée de ne pas être européen. Si on n'est pas européen, dit-il, on en profitera pour accélérer le pas. Il parle d'investissement massif avec Omanet Juninho. Il dit ce sera l'année 1 du plan Juni. La déclaration de Jean-Michel Aulas. À Marseille, pour le moment, on a fixé un planning idéal, je précise, mais on sait que ce sera compliqué. Reprise de l'entraînement le 11 mai, retour à la compétition le week-end du 16 et 17 juin pour une Ligue 1 qui terminerait fin juillet. C'est ce qu'espère Jacques Henriero, mais c'est le virus qui nous commande, dit-il.
Mais même pas à Lourdes, ça peut arriver. Ça.
Voilà, en tout cas, c'est l'espoir de Jacques Anhérault.
C'est quand même incroyable. Là, c'est pas un espoir. C'est pas un espoir. Ça, c'est
une utopie.
C'est une stupidité. Et je présenterai mes excuses si ça se passe, ça.
Ok.
Enfin, je sais pas. Je me paye.
Oui, non, mais t'as raison. On est de moins en moins à y croire, bien sûr. Accord trouvé entre la Ligue et Canal Plus et beIN Sport concernant la dernière tranche des droits TV à payer à la Ligue. Les deux diffuseurs devaient effectuer, je le rappelle, début avril, un versement de 110 millions d'euros pour Canal Plus, 42 millions pour beIN Sport. Alors, Canal devrait payer au final environ 37 millions d'euros pour les matchs qui ont déjà eu lieu dans cette tranche à payer. Et beIN Sport, qui aurait dû verser initialement 42 millions d'euros, devrait payer 15 millions d'euros. Si la saison reprend, il y aura de nouvelles négociations. Voilà, on avance un petit peu.
C'est bien. C'est normal, mais c'est bien.
C'est normal, mais c'est bien.
Il y a des choses normales qu'on ne voit pas.
Exactement. Alors, aux Pays-Bas, les gars, c'est extrêmement clair. Eux, ils ont tranché dans le vif. C'est le gouvernement, en tout cas, qui a tranché. Et l'Eredivisie s'y plie, forcément, le championnat batave. Saison terminée, ça y est, c'est sûr. L'Ajax, leader, ne sera pas officiellement champion, mais disputera la prochaine Ligue des Champions, bien sûr. Et l'AZ Alkmaar, qui était deuxième au classement, devancé par l'Ajax à la différence de but seulement, disputera un tour préliminaire et éventuellement un barrage. Grosse colère de l'AZ Alkmaar.
Pourquoi l'Ajax ne sera pas champion? Je n'ai pas compris.
Parce que on considère que, étant donné que le championnat n'est pas joué jusqu'au bout, aucun titre n'est attribué. Il n'y aura pas de relégation et il n'y aura pas de montée non plus. Voilà, très clair.
Le titre, là, le titre, il n'est pas attribué, mais tu fais la Champions League.
C'est ce qui se passera en Espagne également, a priori, tu vois, si on ne va pas au bout du championnat. Voilà, le Barça ne serait pas champion, par exemple. En tout cas, l'AZ Alkmaar est en colère parce qu'elle conteste.
Et le Paris Saint-Germain, avec les points qu'ils ont, ils ne seront pas champions aussi si on fait Paris en France.
T'as raison, mais justement. Et Liverpool également, t'imagines en Angleterre?
Oui, Liverpool, ils ne seront pas champions.
Ouais, bah oui, mais je ne sais pas. Chacun est souverain dans son pays, décide d'attribuer ou pas le titre si on n'arrive pas au bout de la saison uniquement dans ce cas-là. Le troisième, c'est le Feyenoord Rotterdam qui disputera la phase de groupe de la Ligue Europa. Le PSV Eindhoven et le club du Willem II Tilburg joueront les tours préliminaires de l'Europa League. Je le rappelle, pas de relégation ni d'accession. Voilà pour les infos du jour, messieurs. On est ensemble jusqu'à minuit. C'est bon, on a fait le tour.
Super.
Vous avez rien vu qui m'échappait, les gars? Non, c'est bon.
Ah non, bravo.
Non, vous n'avez pas une voiture à vendre ou une annonce à passer?
Je réfléchis.
Allez, on revient ensemble. On est jusqu'à minuit, bien sûr, pour un débat qui enflamme nos réseaux. Quel est le meilleur joueur de Ligue 1 décennie 2000? À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Nicolas Jamain.
Avec Willy Sagnol, avec Lionel Charbonnier et avec coach Courbis, messieurs, à 23h45. Cette question que je vous poserai, quel est le joueur le plus fou que vous avez rencontré dans votre carrière, coach Willy? Vous avez déjà le nom, messieurs, c'est bon?
Ah ouais, oui, bien sûr.
Coach.
Moi, je n'ai pas réfléchi.
Ça se trouve, on est les trois mêmes.
S'il faut, Lionel, il va dire coach. Coach va dire Willy. Ça serait drôle, ouais, on verra. Mais d'abord, notre débat, messieurs. Extrêmement clair. Qui est le meilleur joueur de Ligue 1 de la décennie 2000? Donc, jusqu'en 2009, puisque la décennie suivante ne commence qu'en 2010. Rappel important au préalable. Alors, on a pris avec Arthur Robert, producteur de l'After, les joueurs année par année. Donc, les 9 élus meilleurs joueurs au trophée UNFP lors de ces 10 saisons. 9 et pas 10, puisque monsieur Pedro Miguel Poleta a été élu deux fois meilleur joueur de Ligue 1 en 2002 et 2003. On parlera de Ronaldinho, supporter parisien. Évidemment, il n'a jamais été élu meilleur joueur de la saison en Ligue 1. Mais voilà, il y a beaucoup de Ronnie qui apparaissent sur la chaîne RMC Live ou sur l'application Direct Studio. Je vous donne d'abord, messieurs, les lauréats de la décennie 2000. 2000, Marcelo Gallardo, Monaco, champion. 8 buts marqués pour lui, mais c'est pas que ça. Gallardo, évidemment. Gachardo, comme disent les Argentins.
Non, mais surtout, c'est parce qu'il était super bien épaulé en 2000.
T'as raison, il avait des centres, quoi.
Hein, vous, il
avait des vrais centres qui arrivaient dans la latérale, quoi.
Ouais, bah oui.
Putain, le mérite qu'il avait, le mec. Je me suis planté de joueur. J'aurais dû mettre Gallardo.
Je confirme.
Gallardo, c'est avec Astérix, tu sais, Willy Sagnol en bas de la page, tu vois. 2001, Eric Carrière.
Un super mec en plus.
2001, Eric Carrière, champion avec le FC Nantes. Voilà, 6 buts et des passes décisives, évidemment. 2002-2003, donc, Pedro Miguel Poleta avec Bordeaux, précision, et pas avec le PSG. 27 et 24 buts sur les deux saisons. Magnifique.
C'est à la suite de ça qu'il a été transféré.
Au PSG. 2004, Didier Drogba, Olympique de Marseille, une saison, 23 buts. 2005, Michael Essien, fantastique. Olympique Lyonnais, 9 buts, mais ça compte pas, les buts pour lui. 2006, Juninho, Olympique Lyonnais, 13 buts, et un rayonnement sur le jeu lyonnais pendant 7 saisons. 2007, Florent Malouda, Olympique Lyonnais, 12 buts. 2008, Karim Benzema, 24 buts. Il en mettra 22
Précision importante, la saison suivante avec Lyon en 2009. 2009, Johan Gourcuff, Bordeaux, 14 buts, champion de France, évidemment. Par qui je vais commencer, tiens?
Allez. Avant qu'on commence, vas-y, je peux quand même démontrer.
Il y aura les gardiens également après, hein, coach. Hein. N'oublions pas les gardiens.
Donc, justement, quand on parle des concours, des trophées, des ci, des là, donc je lutte modestement, mais bêtement, contre le ballon d'or.
Et inlassablement aussi.
Là, tu vois, oui, mais ça fait rien. Jusqu'à la fin de mes jours, quand j'ai une idée en tête et qu'on ne va pas démontrer le contraire, eh bien, je ne vais pas changer d'avis.
Et même parfois, si quand je le démontre, si ça ne marche pas.
Mais non, même si je suis seul contre 1000. Là, par exemple, on s'amuse pour terminer l'émission avec ces joueurs-là. Tu me donneras le nom d'un défenseur et d'un gardien de but dans ces trophées.
Les gardiens, mais c'est à part, parce qu'effectivement, il y a les trophées UNFP à partir de 2002 pour les gardiens. Il y a Ulrich Ramé.
Les défenseurs, Greg, tu les as pas non plus.
Et non, t'as Greg, non?
Et ils ont pas été. Greg Coupé à 5 fois, Teddy Richard, ouais, pour Sochaux, exploit Teddy Richard en 2007, Steve Malanda en 2008 et Hugo Lloris en 2009. Coach, t'as raison, c'est le même débat. T'as raison de le dire au préalable. Il y a un joueur à vocation défensive.
Mais attention,
Michael Essien dans cette liste.
Je trouve ça normal. Ouais, attention.
Elle est très loin.
Terrain, il y a Juninho aussi. Mais c'est des milieux, ok. Et je trouve ça logique que tout de suite on soit attiré par ceux qui les construisent et les buts, ceux qui les marquent et pas ceux qui les empêchent. Mais bon, je le signale quand même.
Et alors, cite-moi un défenseur maintenant qui a rayonné en Ligue 1, pour toi le meilleur défenseur de Ligue 1, et après on passera à notre
sur ces dernières années, avec le nombre de buts qu'il a marqué et tout, Laurent Blanc.
Laurent Blanc, meilleur défenseur de la décennie en Ligue 1, décennie 2000, ok.
Ouais. La décennie.
Il avait pas le comportement d'un défenseur comme vous pouvez l'avoir Thuram ou De Sailly ou quoi, mais il jouait arrière central.
Mais
un arrière central.
Mais Roland, je sais.
Il n'est pas la décennie Laurent Blanc.
Mais là, on est la décennie 2000-2009. Je dis pourquoi on ne va pas parler de Laurent Blanc 2000-2009.
Ah non, d'accord, mais je te parle d'un joueur et d'un profil de joueur.
Ah oui, d'accord.
Des défenseurs qui pourraient être au milieu de ces joueurs-là.
Après, tu m'aurais dit décennie 90, oui, effectivement. Il rayonne en France, à Auxerre, à Saint-Etienne, à Marseille, bien sûr, évidemment, avec toi, coach. Alors allons-y, messieurs. Gallardo, Carrière, Pauleta, Drogba, Michael Essien, Juninho, Malouda, Benzema, Gourcuff, qui est le meilleur joueur de Ligue 1, selon les trophées UNFP, de la décennie 2000. Willy.
Alors, moi, je vais dire celui qui...
Celui qui t'a le plus impressionné, hein, c'est ça qui compte.
C'est ça. Hein. C'est surtout, moi, celui qui m'a le plus impressionné, c'est Essien.
D'accord.
Parce que Essien, au milieu de terrain, à son époque lyonnaise, et même quand il va à Chelsea, j'ai rarement vu un milieu de terrain avec une densité athlétique, il faisait mal aux adversaires. C'est-à-dire que dans tous les contacts, il était là, il faisait mal. En plus, il n'avait pas les pieds carrés. C'était un vrai joueur de transition.
Ouais, il fait un changement de rythme, accélération.
Ah ouais. Moi, je me rappelle même de lui quand il était en Corse au tout début, et c'était vraiment, vraiment merde. Ah, je me rappelle plus.
Diarra.
Je me rappelle plus où il était. Son club avant Lyon.
Ah mais c'est Bastia.
Voilà, Bastia. C'est pour ça que j'ai dit en Corse, j'ai eu un doute, je savais plus exactement.
Ouais.
J'étais fou de ce joueur là. Ah ouais.
Alors deux saisons, 2003, 2004, 2004, 2005. Il joue avec Lyon beaucoup, jamais blessé. Il joue 89 matchs avec l'OM.
Bah tu vois, RMC Sport, on a fait un reportage sur Ronaldo et sur Messi qui disait j'ai rencontré un monstre. Et ben moi voilà, quand j'ai joué contre Essien, j'ai rencontré un monstre aussi. Voilà.
Michael Essien pour Willy Sagnol. Lionel.
Eh ben moi je te dirais Juninho.
Ah, tu vas te faire des amis. Beaucoup.
Ben, je sais pas, peut-être pas des ennemis, mais en tout cas, non, j'ai hésité avec Pauleta, mais je me suis dit avec encore un mec qui marque des buts et tout, on voit souvent les buteurs. Là, Juninho, il a pas des stats extraordinaires au niveau des buts de ses buts, mais je trouve qu'il a eu une régularité au sein de l'Olympique Lyonnais durant cette décennie incroyable. En plus, il a été il est toujours resté. Il a eu une fidélité incroyable alors qu'il aurait pu partir. Souvent, ceux qui ont été donnés là sont partis. Par exemple, Essien, il me semble qu'il est parti l'année d'après. Il a été meilleur joueur deux et saisons, après ouais. Il est parti. Drogba est parti aussi. Il a été meilleur, buteur et tout. Il est parti.
Une saison à Marseille.
Voilà. Lui, il est toujours resté avec son club. Et c'est un mec en plus qui était, de par sa régularité, bon, ça je viens de le dire, mais à un moment donné, je trouve qu'il a changé, et c'est là où il m'a ébloui. Il y a une donne qui a changé durant cette décennie, ce sont les ballons. Les ballons qui se sont mis à voler et tout, et avec ces ballons thermocollés. Et lui a su adapter une nouvelle technique, je sais pas comment, il se démerdait avec son espèce de geste technique, notamment sur les coups francs, où il prenait la balle, où j'ai jamais vu, quand tu regardes toutes les écoles de football,
la cheville fixée, exactement.
Il bouge pas. Il a inventé une technique, enfin pour moi, hein, je sais pas, vous êtes plus technicien que moi. Il y a beaucoup de gardiens qui tiraient des 6 mètres avec la cheville fixe, mais ça donnait pas le même. Ça faisait des.
Ça partait en touche, ouais.
Voilà, ouais, disons que tu savais pas tout où ça allait. Mais lui, il a su adapter et ça a été un tournant par rapport à ces nouveaux ballons thermocollés. Oui, il a été innovant, il a été en plus régulier. Mais je me souviens d'un coup franc, ouais, c'était contre Ajaccio.
Le nombre de fois qu'il a Bayern, sorti son équipe dans la merde.
Voilà.
Mais tu sais Lionel,
c'est je trouve que c'est durant l'année, pour moi c'est le joueur qui a fait évoluer même le tu vois un geste technique au-delà de sa régularité, au-delà de tout ce qu'il a été. Et pour moi,
mais tu sais Lionel, quand j'ai reçu la liste cet après-midi, en fin de journée, tu sais que ma première vision, c'était aussi Juninho. C'était pas Essien, c'était d'abord Juninho. Et puis après, je sais pas pourquoi, ça m'est revenu en tête ce match France-Brésil de 2006, où Juninho est titulaire, et où il se dilue complètement dans le match. C'est-à-dire que, on voyait même sur son visage, il était un peu palichon.
C'est tous les Brésiliens. En fait,
oh. Ouais, mais
c'est pas spécial à lui.
Non, mais si tu veux, et c'est une image qui m'avait marqué parce que si vous vous rappelez France-Brésil 2006, dans les 5 premières minutes, il y a un coup franc à 22-23 mètres, légèrement côté gauche, parfait pour Juninho. Et en fait, il tire le coup franc et il tire 5 ou 6 mètres au-dessus. Et pour moi, c'était un signe. Je me dis, il n'est pas rentré dans son match, si
je me rappelle bien, c'est quand même une surprise, la titularisation de Juninho, et notamment la mise à l'écart d'Adriano. Et je pense que le sélectionneur brésilien se cague dessus de rencontrer la France et met une équipe un peu plus prudente, alors qu'il y avait un 4-2-4
en 2006,
monstrueux qui massacrait tout le monde.
Et Juninho rentre en jeu quand même, je crois. Ouais. Tiens, François est avec nous, supporter du PSG. Salut François.
Oui, salut à tous.
Salut François. Salut François.
Désolé, on n'a pas parlé de Ronny pour l'instant. Ronaldinho, bien sûr, on en parlera dans un instant.
Écoute, moi non plus.
Ben c'est intéressant, vas-y, on t'écoute.
Non, je le mettrai pas, moi, Ronaldinho. Moi, je mettrais. Je suis pas souvent d'accord avec Lionel, mais pour une fois, je vais être d'accord avec lui.
tu vois, Juninho.
Ça peut arriver parfois. Ouais, de loin en plus, mais largement, parce qu'en fait, si on parle d'une décennie, ça veut dire qu'on va pas parler d'une saison ou deux. Effectivement, Ronny a fait une belle saison. Drogba en a fait une, et si on a fait une ou deux. Mais Juninho était régulier. Juninho, c'est 50 coups francs, c'est
le meilleur. L'année d'avant, 44 coups francs de Juninho à Lyon.
En 2005, il est deuxième meilleur joueur. En 2004, il est deuxième meilleur joueur. Il a tout le temps été là, le mec, d'une régularité incroyable. Et fidèle à son club.
Lyon était champion cette fois de suite. Lui, c'est le meilleur joueur de son club.
Et je crois que la coïncidence, c'est quand il est arrivé qu'il a eu le
titre. En 2001-2002.
Ouais, complètement. Et donc moi, pour moi, de loin, je dirais même de très loin, sur 2000-2010, je mettrais Juninho. Pourtant, je pourrais mettre Paoletta. J'aurais pu, enfin voilà, de le cœur.
Tu vois que tu dis pas que des conneries.
Oui, mais Paoletta de Bordeaux, je rappelle, François.
Ouais, il a fait Bordeaux et Paris.
Il a fait Paris aussi, bien sûr.
Et après, je mettrais même, vu qu'on n'en parle pas tant que ça, mais si on parle de régularité, de grands joueurs, je mettrais Chris en 3.
Chris,
c'est mon
policier, le cop.
Ouais, c'est moins glamour, mais c'était un rock, quoi. C'est un rock. Donc, il était là, je sais pas combien d'années il a fait au club, il a dû en faire ça, 7 ou 8, 9, je sais même pas. Non, il n'était pas là au début des premiers titres,
non,
je crois.
Non,
il est allé vers Cousin au départ, ouais.
Ouais, c'est ça. Ouais, il vient d'Allemagne et puis il est arrivé en cours de route, mais il était monstrueux. Donc,
C'est vrai que Willy, tu parlais de la puissance également de Michael Essien.
Non, mais Chris était phénoménal. Chris était. En plus, il avait un aura, tu sais, sur ça rejaillissait aussi, tu vois, sur ses partenaires. C'était vraiment, voilà, son surnom du policier, c'était exactement ça. Et en plus, c'est un joueur que j'ai joué quelques fois contre lui, mais j'ai eu l'occasion après de découvrir après nos carrières respectives. Et en plus, c'est un mec, mais l'image que j'avais du joueur, tu vois, dur. Mais alors que c'est un mec, il est tout doux en dehors du foot. C'est une pâte, c'est une crème, comme on dit.
Il est adorable.
Ouais, il est adorable. Je l'adore, ce mec. Mais t'as raison. Chris aussi, on aurait pu le mettre dans la liste.
C'est vrai qu'on en parle peu parce que c'est un défenseur, c'est toujours pareil. Mais Chris, c'est monstrueux, quoi. Après, nous, Parisiens, c'était pas la bonne décennie pour nous. Donc,
c'est vrai, t'as raison. Demain, on fera 2010-2019. Pas de problème.
Je pense qu'on sera un peu plus dedans. Après, moi, mon joueur préféré, qui n'était loin d'être le meilleur, ça restera Okocha. Mais bon, ça, c'est vraiment le cœur qui parle. Et donc, mais c'est vraiment pas le plus régulier. Et c'est pas celui qui a marqué la décennie, ça, c'est clair. Surtout qu'il est parti en 2002, je crois. Donc,
je me rappelle toujours de son premier but en Ligue 1 à Bordeaux.
Ah, 5 minutes.
À Bordeaux, il vient d'arriver. On en parle
la
beaucoup.
La frappe de 30 mètres.
La frappe déclenche. Personne ne peut déclencher.
Bah, au bout de 5 minutes, il est rentré à la 85e, je crois. Il marque à la 87e.
Incroyable.
Ouais, 88e, je crois pas.
Le PSG d'Alain Giresse.
Jouant à la gueule. Le PSG d'Alain Giresse à Bordeaux. Et qui avait perdu 3-2.
Bordeaux avait gagné, ouais. Exactement.
Ouais, 3-2, il me semble, ouais.
Merci François.
D'avoir
appelé 32-16. Appelez-nous au 32-16, vos propositions également.
Dans les joueurs les plus fous. Je sais pas si on va en parler beaucoup. L'hôtelier hors concours, mais je mettrais bien moi des Paul Gascoigne et même après des gardiens. On n'en parle pas beaucoup, mais Olmeta et Campos.
J'ai eu peur.
Dans les foufous, ouais, Olmeta et Campos, moi, on berçait ma vie, j'ai bien aimé.
Il y a beaucoup de gardiens un peu secoués, et ça, on en parlera avec Hélène dans un instant, bien sûr. Merci François, excellente soirée. Merci. Quand tu viens de la faire au 32-16. Coach, c'est ton tour.
Ben écoute, avec les arguments que j'ai entendus, que ce soit chez Willy et chez Lionel, je vais pas changer parce que j'avais pas bien compris que c'était sur l'année. Je pensais qu'il fallait choisir dans cette liste celui qui nous avait le plus impressionné.
Ah mais si, ça marche aussi, vas-y, bien sûr.
Et moi, si tu veux, si c'est sur la durée de cette période-là, ben, c'est sûr que Juninho est hors concours.
Ouais.
Donc, mais en ce qui concerne la saison, ce que j'ai vu faire à Drogba, tout seul à la pointe de cette attaque marseillaise, souvent tout seul dans un 4-5-1, je l'ai rarement vu faire, et j'ai hésité entre la saison de Pogba et la saison de Gourcuff l'année du titre. 2009. Je regardais parce que je suivais ces deux clubs qui auraient été importants pour moi entre Marseille et Bordeaux, et pour que Marseille ne soit pas champion, puisque je réfléchissais comme ça, Il a fallu que Bordeaux gagne les 10 derniers matchs d'affilée, même pas un nul. Et ce que fait Gourcuff cette année-là, je pense, alors j'exagère un peu en tant que Marseillais, mais j'avais l'impression que c'était Platini plus Zizou. J'ai rarement vu faire. Bon, il a malheureusement pas renouvelé, mais cette année-là, ce que fait Gourcuff, c'est tout simplement exceptionnel.
Une saison état de grâce, en fait.
C'est pour ça que j'ai mis Gourcuff juste devant Drogba.
Gourcuff en 1, Drogba en 2. Sur le critère, le joueur qui m'a le plus impressionné dans la décennie, effectivement.
Ouais. Dans sa saison, dans la saison où il a été meilleur joueur.
J'accueille Jean-Luc. Attends, on peut en parler de Gourcuff, Oudi, qu'est-ce que t'en penses également?
Ah non, ça, la saison où il brille tant avec Bordeaux, l'année du titre, c'est il marchait sur l'eau. Il marchait sur l'eau. Ça a été. Puis c'était l'élégance, c'était. Voilà, c'est. un beau mec, gentil, voilà.
Les passes, les buts.
Après, le problème, c'est qu'il y a tout ce qui s'est passé après, ça a tout gâché. Et c'est pour moi, c'est pour ça que je l'ai pas mis, parce que. Mais c'est vrai que c'est cette année-là. Et comme on dit, voilà, il y a une année dans ta carrière où tu marches sur l'eau. Et bah lui, c'était cette année.
Et puis c'est un joueur qui a besoin d'un équilibre parfait. Bah, on en a déjà parlé beaucoup. Hein. Très dans l'émotion, très sensible, qui a besoin de tout ce qu'il fallait autour de lui dans l'entourage. Le bon coach également, Laurent Blanc en l'occurrence, et Jean-Louis Gasset, bien sûr, faut le préciser. Et puis également son entente avec Marouane Chamakh au Girondin de Bordeaux. Devant, bien sûr. J'accueille Jean-Luc au 32-16. Salut Jean-Luc.
Salut.
Bonsoir, bienvenue à l'after Jean-Luc. Alors,
si Gourcuff, il aurait fait ça, faire ça un an plus tôt, un an plus tard, ça aurait été bien. Mais malheureusement, il a fait la mauvaise année pour moi. Voilà. Supporter de l'OM.
Ah oui, voilà. Donc,
c'est pour ça. Ouais. Donc, moi, effectivement, tous les joueurs que vous avez cités sont tous et d'éminents joueurs. Et puis, moi, il y en a un que je trouve, pour son exemplarité, pour tout ce qu'il a apporté par la suite et pour tout ce qu'il fait, c'est Vittorino Hilton. Parce que ce joueur, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il est arrivé dans notre championnat et puis.
Il est arrivé à Bastia en 2004, puis après, il fait Lens 4 saisons, Marseille 3 saisons. Et voilà.
C'est ça. Et puis Montpellier, puis bon, champion de France avec deux clubs différents, d'accord, quand même, lui, parce qu'avec Marseille et avec Montpellier. Et puis c'est un joueur qui a apporté quelque chose. Moi j'ai rarement vu un libéro jouer comme ça, quoi. C'est un joueur exceptionnel. Et puis alors, 40 ans, il est toujours bon.
42 ans. Il va même sur 43.
Oui.
Ouais, jamais blessé, j'ai rarement suspendu, on l'entend pas, il fait pas de faute. Moi, je trouve que c'est un joueur exceptionnel. C'est un joueur dont on a pas assez parlé, je pense. Puis moi, je suis vraiment triste quand il était parti de l'Olympique de Marseille à l'époque, parce que je trouvais que c'était un défenseur exceptionnel. Et quand il était à Lens et à Bastia, pareil, quoi, c'est un monstre, quoi. Après, c'est sûr, Chris, Juninho, tout ça, c'est très bon. Drogba, Brennan.
J'aime bien ta proposition un peu décalée, Vittorino Hilton, qui est toujours en Ligue 1, bien sûr, évidemment, 16 ans plus tard. Ouais, coach, toi, tu l'adores, hein, ce joueur. Hein,
je trouve extraordinaire son parcours et tout. Par contre, je ne le mets quand même pas dans la catégorie, sur la longévité, il a battu tous les records. Je ne le mets quand même pas dans la catégorie des très 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 bons. Je le mets dans la catégorie des très bons.
Merci Jean-Luc.
Merci.
Excellente soirée à toi. Tu reviens quand tu veux dans l'after. Alors salut, moi, je vous donne, moi, c'est vrai que j'ai un fait pour Eric Carrière, en fait. Alors, c'est à justifier, évidemment. 2001, meilleur joueur de Ligue 1, champion de France avec Nantes, au service d'un collectif qui a tiré la quintessence de potentiel. Il n'y avait pas des grands. Pas que des grands joueurs à Nantes. Il y avait un travail exceptionnel de Reinald Denoëx, bien sûr. Mais ce que j'ai aimé, c'est ce joueur, c'est sa capacité à tirer le meilleur de ce qu'il pouvait faire, surtout. Son intelligence de jeu également. Puis après, il est parti à Lyon aussi, où il a été champion avec Lyon. Faut le rappeler.
Joueur très fin.
Joueur extrêmement fin, avec un potentiel physique, évidemment, on le connaît, moyen. Dans l'impact, bien sûr.
Dans l'impact, Fin aussi, physiquement.
Mais Eric Carrière, ouais. Alors après, on parle beaucoup, c'est vrai, de Marcelo Gallardo. Je sais pas, t'as joué avec lui, Willy? Gallardo.
Bah, Gallardo, c'était
un toucher de balle, c'était vision du jeu.
C'est un artiste, Marcelo, et puis vraiment un mec gentil, adorable. Voilà, c'est un superbe joueur. En plus, il arrive
d'Argentine. Et qu'il comme coach aussi. Hein.
Voilà, et qu'il arrive la première année à Monaco, et on est champion tout de suite. Et voilà, quoi, que des bons souvenirs avec lui.
Voilà, donc Pauleta revient beaucoup également. Il n'est pas dans votre sélection, messieurs, en tout cas, numéro 1.
Avec Pauleta.
Ouais.
J'ai hésité avec eux, mais c'est parce que voilà, j'ai pas voulu mettre de stats quand on avait eu la discussion l'autre fois avec le coach. J'ai dit tiens, je vais en mettre un qui a des stats un peu moins bonnes que Pauleta, parce que c'est phénoménal ce qu'il a fait, tous les buts qu'il a marqués et tout. Mais Juninho sur la durée et tout, je pense que c'est quand même Juninho est un cran au-dessus sur la durée de la décennie. Il est bien au-dessus de Pauleta quand même.
Alors il y a Sonny Anderson qui revient beaucoup également, messieurs.
Il n'était pas dans le.
Il lance l'ère lyonnaise, mais il n'est pas dans les trophées UNFP. Ouais. Voilà pour les joueurs. Tiens, on fait les gardiens rapidement. Je le rappelais, parmi les meilleurs gardiens de Ligue 1, décennie 2000, Ulrich Ramé avec Bordeaux. 2002, hein, lui. Coupé 5 fois. Teddy Richert à Sochaux, il fait une grande saison en 2007. Steve Malanda, Hugo Lloris. Si on part du principe, messieurs, parce que sinon on est tous d'accord pour Grégory Coupé.
Greg.
Celui qui vous a plus impressionné sur la décennie, le gardien.
Greg.
Bon, Greg aurait coupé, sans aucun doute.
Pas de doute.
Ah oui.
Ouais,
sur la décennie.
Je suis d'accord, bah, c'est quand même énorme, c'est un point haut.
Cinq fois. 2003-2006.
Bah ouais, pour
Grégory
Coupé. Il n'y a pas photo.
Bon, vous n'êtes pas très bavard, mais c'est normal, on est tous d'accord. Voilà pour notre... Demain, on fera la décennie 2010. Donc de 2010 à 2019. Pour le meilleur joueur de la Ligue 1, il y aura forcément plus de Parisiens dans le choix de nos auditeurs et peut-être dans les vôtres, messieurs. Dans un instant, vous allez me dire quel était le joueur le plus fantasque, le plus fou, le plus étonnant que vous avez côtoyé, affronté, rencontré dans votre carrière, dans vos immenses carrières de joueurs, messieurs, bien sûr.
RMC, l'Afterfoot, Nicolas Jamain.
Coach Courbis, Willy Sagnol, Lionel Charbonnier, on est ensemble jusqu'à minuit, c'est le dernier quart d'heure de la soirée, messieurs. C'est pour conclure le débat sur le meilleur joueur, il y a beaucoup de messages, évidemment. Meilleur joueur de Ligue 1 de la décennie 2000, on nous cite Ludovic Juli, dit Jérémy, Thiago Mendes de Lyon, nous dit Bounty. J'ai mal à comprendre. Je pense que c'est ironique, effectivement.
Bien sûr.
Monakoff nous dit Jérôme Roten. N'oubliez pas Jérôme, énorme Jérôme, décennie 2000. Stéphane Ziani également, champion de France dans différents clubs. Et puis Jérémy nous dit c'est ouf de pas évoquer Ronaldinho. Mais les gars, Ronaldinho, immense talent, bien sûr. Mais c'est pas en Ligue 1 que c'est mieux exprimé. On est d'accord?
Ah bah non.
Ouais.
Il a montré du génie. Mais pas assez souvent par rapport à ce qu'il a fait après.
Voilà, le débat est clos. Messieurs, je ne dis pas, et lisons avec vous, en tout cas, votre joueur le plus fantasque, le plus fou dans votre carrière. Alors, je ne dis pas les plus dangereux, précision importante, hein, parce que sinon on va nous dire effectivement des joueurs de comme Vinnie Jones de Wimbledon, notamment qu'on a évoqué Julien Laurent la semaine dernière.
C'est pas français le...
Que tu veux. Ce que tu veux. Ah, c'est pas,
mais quand on dit fou, on dit pas débile non plus. C'est pas ça.
Tu peux être fou parce que débile, tu sais.
Fantasque, différent.
Ouais, les personnalités les plus singulières, les plus déjantées, toi, les plus originales.
Okay. Moi, j'ai réfléchi au moins deux secondes.
Vas-y.
Donc, au niveau fantasque, au niveau surprenant et tout, Pascal Olmeta. Donc, j'ai eu le plaisir de jouer avec quand c'était justement ma dernière ou mon avant-dernière saison. Mais c'est la saison où j'ai le plus rigolé tous les jours aux entraînements, toujours une connerie à sortir, toujours un truc surprenant. Il passait dans la tête de jouer les petits jeux qu'on faisait dans le champ, et bien il dribblait tout le monde. Donc non, c'est un gars aussi adorable que surprenant.
Ah, t'as pas une anecdote à raconter sur le méta à l'entraînement? Non, t'as rien.
Des anecdotes, oui, on était en stage, d'un coup j'entendais pam, pam, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a des pétards, il y a une kermesse, machin, etc. Non, il tirait avec un revolver sur les moineaux. Donc d'un arbre devant, j'ai dit, mais tu veux attraper un moineau avec un revolver? Normalement, c'est avec un fusil, quand même, je sais pas. Il m'a dit, mais j'ai pas de fusil, comment tu veux que je fasse? Donc tu vois, c'est des réponses comme ça. Et avec, en plus de ça, un bon cœur, une générosité extraordinaire.
Ne parlons pas de ces fantasques chevauchés sur le terrain également qui devaient rendre fou ses entraîneurs. Il en a parlé dans l'excellent doc sur RMC Sport.
Une fois, malheureusement, on l'a interdit, mais il voulait rentrer au Parc des Princes à cheval. Donc on l'a pas autorisé, mais il en aurait été capable. Mais déjà, pour avoir l'idée, il faut quand même l'avoir. Je sais pas. Lors d'une finale de Coupe de France, d'arriver à un cheval, il faut déjà avoir l'idée.
Écoutez, Pascal Olmeta, archive.
Oui, tu as un grain de folie. En plus, quand tu es gardien, tu as deux grains de folie. Et c'est comme les chromosomes des sangliers, ça. Il faut être à part.
Lionel, tu valides?
Ouais, mais c'est vrai, mais c'est une folie douce et voilà, c'est un mec attachant et pas mal. C'est vrai que beaucoup de gardiens de but sont un peu comme ça. Soit ils ont un chromosome en plus ou en moins, je sais pas, mais il y a quelque chose qui est différent chez les gardiens de but, c'est vrai.
Alors, Willy, on t'écoute.
Je vais rester dans les gardiens de but aussi.
Oh, les mecs!
Les tarés, les starbés. Non, parce que Fabien, il avait un côté un peu fantasque, mais il réfléchissait beaucoup aussi. Non, moi, je vais parler d'Oliver Kahn.
Ah oui.
Parce que.
Taré un peu flippant aussi, quand même. Hein.
Alors, oui, un peu. Mais plutôt, c'est plutôt sur ça le terme un peu flippant, tu vois. Parce qu'en fait, tu savais
c'est
jamais.
C'est pas Lisa qui s'est pris la tête avec?
Non, pas non. Avec lui. Non, mais il y a personne qui s'est pris la tête avec lui.
Il fallait pas.
En fait, tu savais jamais comment t'allais le trouver. mais t'allais le trouver chaque jour était différent. Enfin, on avait tous, on était tous le matin en se disant pourvu qu'il arrive de bonne humeur. Parce que à l'entraînement, si jamais il n'était pas dans un bon jour, il te faisait les sorties à la hauteur des genoux sans aucun problème. On l'a vu mordre un joueur une fois. Je crois que c'était l'avancante de Dortmund. Mais il y a eu d'autres choses aussi. Moi, on joue à Rostock. Je crois que ça doit être 2000-2001. Donc c'est ma première année là-bas. Et on joue à Rostock et on est en train de perdre 1-0. Rostock, une équipe mal classée, donc on fait un match de merde. Et il reste 2-3 minutes à jouer. Il y a un coup franc sur le côté. Et qui sait qu'on va pas monter, Oliver Kahn, tu vois, qui vient dans la surface.
Je me rappelle de ça.
Et là, si tu veux, il y a, je crois que c'est Mehmet Scholl qui tire le coup franc, côté gauche. Et en fait, le ballon, avec un effet rentrant, et tu vois Oliver Kahn qui arrive, qui saute, et tout le monde se dit, putain, il va mettre le but de la tête. Presque, il y avait un arrêt sur image, on s'est dit, il va mettre le but de la tête. Il aurait pu mettre le but de la tête, mais il a pas voulu mettre la tête. Il a mis les points. Donc il a marqué un but des deux points.
Quel taré! Et pourquoi?
Comme il avait déjà pris un jaune dans le match, il savait qu'il allait en prendre un deuxième. Tu vois, il est tombé par terre, il s'est relevé, il a enlevé les gants, il a regardé personne, l'arbitre lui a mis le rouge, il a marché au vestiaire. Jusqu'au vestiaire. Voilà.
Ouais, donc il a, si tu veux,
c'était tellement fort, surprenant. On est rentré dans les vestiaires, même l'entraîneur était, même Otmar Hitzfeld était mort de rire dans le vestiaire. Alors qu'on venait de perdre chez le dernier ou l'avant-dernier.
C'est ça la question, c'est comment tu réagis face à un mec comme ça quand tu rentres dans le vestiaire?
Tu rigoles,
mais tu peux pas.
Je lui ai vu balancer, tu sais, les grosses poubelles industrielles qui font je sais pas combien de centaines de litres. J'en ai vu prendre une dans les bras, il a balancé dans un vestiaire et il a chopé un joueur avec ça à la mi-temps d'une finale de Coupe d'Allemagne alors qu'on était en train de gagner 2-0. Mais juste parce qu'il y avait eu un truc qui lui avait pas plu et il y a un joueur qui était là, il a pris la poubelle dans la gueule alors qu'il n'avait rien demandé, tu vois. Mais c'était ça,
Mais ils avaient se marrer aussi ou pas quand même?
Ouais, mais
ouais. Quand il se brûlait.
Voilà. Ouais. Mais non, mais en plus c'est un bon mec, Oli, c'est un mec intelligent, c'est un mec gentil, mais par contre légèrement lunatique. Et puis quand il y avait les deux fils qui se touchaient.
Quand tu dis c'est un bon mec, Oli, c'est Oliver.
Oli Kahn, excuse-moi, pardon.
Tu m'as fait peur,
Oli. On l'appelait Oli.
Et puis, faut quand même se rappeler que Kahn,
c'est 105 kilos. Hein. Donc quand il faisait ses sorties. Quoi un peu,
105 kilos
105 kilos, les gars. Donc quand vous le preniez dans la gueule, ça faisait mal. Hein.
M'étonne. Bah ouais. Tu vois, t'as croisé Stéphane Effenberg aussi, quand même, parce que lui, c'était un bon taré aussi.
Moi, j'ai joué deux ans, trois ans après l'arrêter sa carrière. Je pense qu'il avait fait beaucoup de conneries avant. Et il s'était quand même un peu assagi quand je suis arrivé. Il avait beaucoup de caractère, mais il s'était un peu assagi. Voilà.
Alors, le bras d'honneur à destination des supporters de la National Manchester.
Ouais, mais ça, c'est quoi?
C'est 94.
Ouais.
C'était fou, ça.
Moi, je l'ai connu en 2000. Donc,
t'adores.
Mais je l'adore, Effenberg, je l'adore. C'est le meilleur de tous les capitaines avec lesquels j'ai pu jouer. C'est celui qui m'a. Enfin, il m'a fait. Quand il faisait parfois ses causeries, les poils se sont hérissés.
En allemand, bien sûr.
Bien sûr.
Stefan Effenberg. Lionel.
Ah bah moi,
il y a plus de 32-16 aussi. Hein.
C'est très simple. Moi, c'est très simple. J'ai pris un peu de chez le coach, un peu de chez Willy, et ça m'a donné un Cantona. Tu vois, Willy disait pourvu qu'il arrive bien et de bonne humeur à l'entraînement. Bah ça, c'était nous avec Canto. Et après, le mec prêt à déconner, le mec attachant et tout. Bah c'était Canto. Canto, c'est tout ça. C'est le mec qui est bon partout, mais qui peut péter un câble n'importe quand. C'est sa carrière, elle est extraordinaire. C'est un mec singulier qui fait. Il faisait de la peinture, il peignait très bien. Il fait du cinéma, c'est très bon. Il est bon partout. Moi, c'est un mec que j'adore. Alors des anecdotes sur Canto, j'en ai.
Une que
tu connais pas forcément. Le premier tournoi qu'on va faire en Pologne. Alors à l'époque, la civils et tout. C'est vraiment, ils font la queue pour les avec des tickets pour le manger, pour le rationnement et tout ça. Et donc il y a le premier tournoi en salle qui est télévisé en Pologne. On va là-bas et bien sûr le bon Kanto, c'était la star. Et là, l'arbitre part en live. On joue contre Gornik Zabrze. C'était à Gornik Zabrze. On joue. Ah ouais, ouais. Non, mais là, ça, tu t'en souviens, je peux te dire. Hein. Et on joue ce match. Et le vainqueur de ce match-là allait en finale, bien évidemment. On joue chez l'autre. Et là, l'arbitre, on gagnait 1-0. L'arbitre pète un câble. Fallait absolument que Zabrze aille en finale pour les télés, pour ceci, pour cela. Il siffle un pénalty imaginaire. Kanto part en live avec l'arbitre et il se prend tout le public à dos. Tout le public ado. Et là, c'était Cantona, je sais pas quoi. Cantona, je sais pas ce qu'il racontait. Et Kanto, bien sûr, le penalty, le mec de Zabrze tire le penalty, il y en a un. Et on va à la séance de tir au but. Et là, c'est à Kanto de tirer. Et ça repart. Kanto très, très, très énervé. C'est-à-dire, ce que je te passe avant, c'est qu'il y a eu une échauffourée, des échauffourées avec l'arbitre et tout ça. Les caméras qui rentrent sur le terrain. Kanto pour filmer de plus près, tu vois. Mais tout ça, c'est dans le live. Hein, toutes les caméras sont là. Kanto voit la caméra, baisse son froc et monte son cul à la caméra. Giroud qui voit ça, qui était là, se met entre la caméra et Kanto, tu vois, mais un truc de fou, quoi. Et là, le public s'est énervé en salle, puis en plus, ça fait beaucoup de bruit. Et là, on va tirer les pénaltys, et Kanto va tirer son pénalty, et une chanson très entraînante, qui n'était pas avec des mots d'oiseau, je te raconte pas. Et Kanto se met à danser en faisant il faisait la danseuse, tu vois, il sautait d'un pied sur l'autre, les bras en l'air et tout, et il va, comme ça, tranquillement, du milieu de terrain pour tirer son pénalty. Ça met une haine terrible aux joueurs, et là, il prend 20 mètres d'élan. 20 mètres d'élan et tu dis va mettre une saccharine. Donc tout le monde tu vois, pour quand il va tirer, et il met un petit piqué, la balle bom bom bom, et donc il marque le but, le gardien parti, il marque le but, et là il va devant la tribune et il se remet à danser, tous les Polonais qui contre lui, il est seul contre tous. Tous les Polonais contre lui. Et là, il prend un œuf cru sur la tête. Il y en a un qui lui balance un œuf cru. La chose qu'il fallait pas faire. Et Kanto le voit. Il le voit, le mec. Et là, écoute, on rentre, tant bien que mal, on arrive à rentrer dans les vestiaires. Et donc, tout d'un coup, le coach, il a essayé de palabrer pour la télé et tout ça. Il arrive après. Et il arrive, il dit, mais il est où Kanto ? Nous, on dit, on ne sait pas. Et tout d'un coup, on entend au-dessus de nous, comme c'était en salle, tu vois, les tribunes étaient au-dessus de nos vestiaires. Et là, on entend, bam, 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 un truc de fou. Et en fin de compte, Kanto était monté retrouver le mec, tout seul contre tous les Polonais.
C'est pas possible.
Ah ouais, tout seul contre tous les Polonais. Et écoute, il s'en est sorti parce qu'il lui restait quelques dollars dans la poche. Et donc, parce qu'il s'est retrouvé avec tous les mecs qui l'ont pris comme ça. Il était tout en haut de la tribune. Il dit, c'est lui qui nous a raconté, le pauvre. En 3 secondes 12, il s'est retrouvé tout en bas contre la barrière. Il dit, ils étaient en train de m'étouffer. Et donc, il dit, j'ai juste pensé à prendre des dollars et puis les balancer en l'air. Donc, ils l'ont laissé tomber. Et ils ont ramassé les dollars et lui s'est échappé.
Incroyable, cette histoire.
Ah non, mais c'est un mec extraordinaire, Kanto. Donc, tu vois, encore la présence d'esprit de sauver sa vie. Je sais pas comment. Moi, même pas, j'aurais pensé que j'avais encore des dollars dans la poche, mais un mec.
Voilà, on va l'isoler celle-là, on va la mettre sur nos réseaux.
Ah, mais il est génial. C'est, et puis il en a fait des vraiment.
On pourrait faire des bouquins. Attachant. Alors on nous cite également Paul Gascogne, évidemment, Chris Waddle pour le libre arbitre sur hashtag RMC Live, Daniel Alves, notamment nous dit Ali sur hashtag RMC Live. Voilà, il y a pas mal de noms qui reviennent. Et puis tiens, nous on a aussi dans l'équipe, on a un mec un peu fou à RMC. Un jour, il a fait ça après un match avec l'OM. Écoutez, on écoute.
S'il en est du mercato, là.
Ben disons que là, on hésite avec Turc Tafa et Bonne, un petit joueur australien. Donc on va un petit peu réfléchir dans les semaines à venir entre Tafa et Bonne.
Merci Roland.
Ta femme est bonne.
Le journaliste en plus en face, j'ai revu l'image cet après-midi, il réagit même pas.
Il s'en rend compte, il pense, le journaliste.
Il pense à deux vraies infos. Il y a ta femme et bonne à nos joueurs australiens.
C'était un jeu à l'époque, donc il fallait placer une phrase. Et donc c'est vrai qu'elle n'était pas simple à passer, mais bon, allez, je ne m'étais pas dégonflé quand même.
Mais c'est pour ça que vous êtes là tous, hein. On est tous un peu dingos de toute façon. Merci messieurs, monsieur régalé à vous écouter comme tous les vendredis soirs et samedis soirs. Merci Willy.
Eh ben salut, bonne soirée Nico, bonne
merci,
soirée à tous.
Merci coach, merci salut. Lionel également.
Ciao à tous.
Merci Arthur Robert également et à Toto en régie. Bye bye, à demain soir, 22h, l'after sera là.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.